France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Un peu moins de 3 mois maintenant, Natacha et Gilles, avant les élections européennes. Et une question qui revient, à quoi servent ces élections? Écoutez Jean-Louis Bourlange, député Modem, qui a longtemps siégé au Parlement européen. Il était l'invité de France Inter le jeudi 28 février au matin.
Le Parlement européen est un endroit où les parlementaires sont reconnus, respectés, participent à l'élaboration de la loi. La philosophie de la démocratie européenne, qui n'est pas du tout comprise en France, c'est une philosophie héritée de Montesquieu. Vous avez plusieurs pouvoirs indépendants. Vous avez la Commission qui propose, puis vous avez le Conseil des ministres, c'est-à-dire les États, d'un côté, et le Parlement qui décide. Et ils décident ensemble, à égalité de pouvoir.
À quoi servent les élections européennes, Gilles Finkelstein ?
Le paradoxe est que plus le Parlement européen a de pouvoir, et moins il a d'électeurs. En 1979, quand a été instaurée l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, vous avez eu 60% de participation avec un Parlement qui n'avait à peu près aucun pouvoir. Depuis maintenant 15 ans, et c'est vrai en France et c'est vrai dans la moyenne des pays européens...
C'est vrai ailleurs aussi.
On est passé à 40% en moyenne, avec des différences très importantes selon les pays. On est à 20%, moins de 20% en République tchèque, à près de 90% en Belgique. C'est lié au fait que, par exemple, en Belgique, il y a le vote obligatoire. Mais c'est lié à un rapport différent à l'Europe. C'est lié au fait aussi, par exemple, que dans un certain nombre
c'est pas du jeu, comme disent les enfants.
Que dans un certain nombre de pays, on lie les élections au Parlement européen avec d'autres élections. En Espagne, il y aura en même temps des élections municipales. En Belgique, il y aura en même temps des élections législatives. En Lituanie, il y aura en même temps une élection présidentielle. En Irlande, il y aura en même temps un référendum sur le divorce. Donc ça explique ces différences, mais la tendance est que le Parlement européen a beaucoup de pouvoir et il a de moins en moins d'électeurs. Et pourtant, Jean-Louis Bourlange le disait et il a raison, le Parlement européen est un vrai Parlement. D'une certaine manière, il a beaucoup plus de pouvoir que l'Assemblée nationale en France. Et je crois que c'est un des enjeux de la campagne qui vient et d'essayer de faire comprendre à quoi sert ce Parlement européen.
Natacha.
Oui, mais je pense que, étant donné le moment européen où nous sommes, il faudrait que ces élections servent à la fois à faire comprendre à quoi sert le Parlement européen et à quoi sert l'Union européenne. Parce que les deux vont de pair. C'est-à-dire que, bien entendu, le Parlement a gagné en pouvoir et c'est dans un sens quelque chose d'assez intéressant. Mais malgré tout, ça ne compense pas pour l'instant le fait que l'Union européenne fonctionne essentiellement sur des instances non élues et qui ont petit à petit éloigné les peuples de la réalité de l'Europe. Donc je pense qu'il faut déjà se poser la question collectivement de ce que nous attendons d'une Union européenne. À ceci près que ce qui est en train de changer, c'est justement les appétits de certains sur ce Parlement européen, dans le sens où là, le discours, par
Comment
exemple, du Rassemblement national est assez intéressant, c'est très clair. Ce que vous explique aujourd'hui Marine Le Pen, c'est nous avons changé notre doctrine sur l'Europe, nous sommes absolument pas clairs sur l'euro ni sur des tas d'autres choses, mais c'est pas grave puisque de toute façon, notre but est d'avoir une majorité au Parlement européen en nous associant avec d'autres partis qui ont à peu près la même vision de l'Europe que nous et nous allons faire basculer les choses. Ce qui en fait est beaucoup plus complexe que ça parce que quand bien même arriverait au Parlement européen une majorité populiste qui n'est absolument pas aujourd'hui acquis ou gagné.
L'histoire n'est pas écrite.
Voilà, l'histoire n'est pas écrite mais de toute façon les institutions européennes sont telles que ce serait pas exactement comme dans les rêves de Marine Le Pen que ça se passerait. Les choses sont plus complexes que cela.
Gilles Finkelstein.
Alors, d'abord, le Parlement européen est un vrai Parlement, c'est-à-dire que c'est un Parlement qui légifère. C'est ce qu'on appelle la codécision entre le Parlement et les chefs d'État et de gouvernement. On considère aujourd'hui qu'à peu près 40% de notre législation est issue du niveau européen et donc pour une bonne partie du Parlement européen.
Mais alors qu'est-ce que vous répondez à Natacha qui vous dit que l'Union européenne aujourd'hui et l'essentiel des décisions sont prises par des instances non élues ?
Je vais y répondre. Et simplement pour illustrer ce que ça veut dire concrètement pour les Français quand on regarde sur la législature qui vient de s'écouler, le type de décision qui est prise. Quand on interdit le plastique jetable, quand on interdit la pêche électrique, quand on modifie le régime des travailleurs détachés pour qu'à travail égal, il y ait un salaire égal.
Quand on impose le gilet jaune dans les voitures.
Quand on modifie les droits d'auteur, ça c'était un peu plus ancien. Quand on met fin aux frais d'itinérance téléphonique quand vous passez d'un pays à un autre, tout ça, ce sont des décisions du Parlement européen de cette législature. Sur l'autre point, Je suis en désaccord avec Natacha Polony sur le fait que ça fonctionne sur des instances non élues. Le Parlement européen est élu, le Conseil avec les chefs d'État et de gouvernement par définition sont élus, reste la Commission.
Ouais.
Un des enjeux et une des batailles de cette élection, c'est de savoir s'il y a un lien entre le vote des citoyens européens et la présidence de la Commission européenne.
Aujourd'hui, oui. La désignation ou l'élection du président de la Commission européenne est tellement compliquée que personne ne peut s'y retrouver.
Ça relève de tractations entre les États. Simplement, en effet, l'enjeu est de savoir si réellement va s'imposer le fait qui petit à petit est apparu, à savoir que c'est le chef de file du parti majoritaire au Parlement européen.
Alors, les chefs d'État et de gouvernement veulent garder le pouvoir qui est le leur de choisir de manière la plus arbitraire possible, la plus discrétionnaire possible, disons, le président de la Commission. Pour la première fois en 2014, parce que les traités ont été modifiés et il est écrit que le président de la Commission est désigné en tenant compte du résultat des élections au Parlement, c'est-à-dire en clair, en accordant la préférence à la tête de liste du parti qui est arrivé en tête dès lors que celui-ci arrive à constituer une coalition. Comment Jean-Claude Juncker est-il devenu président de la Commission? Eh bien, parce qu'il était le chef de file des démocrates chrétiens, de la droite. La droite a gagné, les chefs d'État et de gouvernement ont été contraints de choisir Jean-Claude Juncker. L'enjeu pour les prochaines élections, c'est de rester dans ce qui a été pour moi un progrès démocratique, le fait que ce soit les citoyens qui choisissent le président de la Commission et donc que l'on ne soit moins qu'avant sur une instance
venir dire que ce sont les citoyens qui ont choisi Jean-Claude Juncker est tout de même tout petit peu...
Un peu plus que si c'était simplement les chefs d'État et de gouvernement.
C'est-à-dire que certes, on peut considérer qu'il était le chef de file, il a surtout été porté par l'Allemagne qui le soutenait. Et c'est d'ailleurs un très mauvais signal à apporter aux citoyens européens, dans la mesure où c'est tout de même celui qui a imposé un système d'optimisation fiscale au cœur de l'Europe. Enfin, c'était un message catastrophique. Donc, en l'occurrence, on ne peut pas se réjouir de la façon dont ça s'est passé.
C'était un mauvais message, mais ça a été plutôt un bon président.
Question malgré tout sur les élections européennes. Pourquoi est-ce qu'il en irait autrement cette fois-ci? 58% des Français disent se déterminer sur des questions nationales au moment de voter aux élections européennes. Au fond, on parle un peu d'Europe, mais c'est pas là-dessus que ça se joue.
On en parle très peu, et lorsque vous demandez aux Français à quoi sert le Parlement européen, en fait, il y a deux problèmes dans le mot Parlement européen, il y a le mot Parlement et le mot Europe. Donc, effectivement, ils ne savent pas à quoi sert ce Parlement, et l'Europe leur semble loin, et donc on se détermine en fonction d'autres sujets. L'enjeu, compte tenu de
ça, c'est la faute de l'Europe, c'est pas la faute des citoyens.
Non, l'enjeu, mais compte tenu de ce qu'est la réalité de ces pouvoirs, c'est d'essayer de faire en sorte que les véritables enjeux de cette élection apparaissent et soient au cœur du débat, et pas simplement la question de savoir dans chaque pays quelle liste va arriver en tête.
Et puis après, il y a les bonnes intentions et il y a la réalité sur ce Parlement européen. Et il suffit de lire le travail de José Bové et la façon dont il a décrit le rôle des lobbies au cœur du Parlement européen pour comprendre que ce n'est pas parce que les citoyens l'élisent directement, que ça change quoi que ce soit à cette puissance des lobbies. Et en particulier, on l'a vu récemment sur le glyphosate et sur la façon dont on a retrouvé des pans entiers des textes rédigés par Monsanto dans le rapport qui a été ensuite adopté par le Parlement européen.
Mais la question de l'interdiction du glyphosate, c'est aussi une question nationale. Là, pour le coup, c'est le gouvernement français qui a décidé de ne pas respecter.
Il y a une dimension nationale, mais dans la dimension purement européenne, on s'est aperçu que les instances qui avaient été désignées pour rédiger ce rapport qui devait permettre au Parlement de décider sur le glyphosate, était un copier-coller absolu du travail de Monsanto. Et ça, c'est vrai dans plusieurs domaines. Donc, il y a de toute façon un nettoyage à faire dans ce Parlement européen. On a 15 000 lobbyistes à temps plein à Bruxelles. C'est quelque chose d'absolument énorme. Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut petit à petit retravailler pour que les citoyens aient l'impression que l'Europe sert à quelque chose.
Gilles, pourquoi y a-t-il 15 000 lobbyistes? Parce que les entreprises, elles, ont très bien compris que le pouvoir, pour une bonne partie, il était à Bruxelles. Et donc, si les citoyens ne s'occupent pas du Parlement européen, le Parlement européen, lui, s'occupe des citoyens. Et donc, c'est une raison supplémentaire pour s'y intéresser. Quant aux lobbies, ils existent au niveau européen, ils existent dans chacun des pays.
Bien
la
sûr.
Question, c'est d'avoir de la transparence.
Le grand face-à-face. sur France Inter.
Il faut baisser davantage les impôts pour les ménages comme pour les entreprises. Nous avons commencé à les baisser et ils vont baisser fortement en 2019 pour les ménages en particulier. Et pour ça, il faut baisser plus la dépense publique.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le 28 février dernier, il avait fait savoir que sa position sur toutes les questions fiscales était extraordinairement simple. Je cite Bruno Le Maire, « Il ne faut pas augmenter les impôts ». Ce qui est assez frappant, c'est que la question fiscale qui a été largement à l'origine du mouvement des Gilets jaunes et pendant ces derniers mois, on a beaucoup discuté de l'ISF, d'un certain nombre de taxes. La question fiscale, au fond, comment la trancher, Gilles Finkelstein ?
Notre pays a une passion, même une névrose, pour la question fiscale. Je crois qu'il y a deux métiers que tous les Français rêvent d'occuper, c'est sélectionneur de l'équipe de France de football et directeur des services de la Légion fiscale, de la législation fiscale.
Vous avez une drôle de vision de la population.
Ça a été le cas dans le dernier quinquennat, avec la passion, pour le coup, du président de la République qui a lui-même inventé le CICE et qui est allé jusqu'à trancher lui-même la question déterminante de la fiscalité des poneys. Donc, c'est des choses qui viennent de loin. Et le quinquennat en est une nouvelle illustration. C'est à l'origine, vous l'avez dit, des Gilets jaunes. C'est un sujet clé du grand débat. Et ce qui est très frappant, c'est que cette inventivité fiscale, elle est en train de frapper le gouvernement puisque chaque jour ou presque, il y a une nouvelle proposition sur un nouvel impôt qui est faite par les différents ministres, le président de la République à chaque fois, leur faisant comprendre que le mieux serait quand même de se taire, mais ça n'empêche pas la passion fiscale. Elle est là et donc chacun y va de son idée.
Natacha ?
Oui, j'ai découvert ce matin la taxe sur les abris de jardin que je ne connaissais pas. Et encore faut-il déterminer ce qu'est un abri de jardin, quelle est la taille de la cabane, quel est ce qu'on range dedans, etc. Donc, en effet,
mais pourquoi c'est si compliqué de réformer le système fiscal dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est extrêmement compliqué ? Pourquoi est-ce qu'on se focalise uniquement, par exemple, sur la question de l'impôt sur la fortune ?
Parce que c'est un symbole, Natacha. L'impôt sur la fortune. C'est un symbole et parce qu'il est assez difficile de revenir sur ce symbole en disant que c'est peut-être pas la meilleure façon et qu'après tout, c'est peut-être en effet un impôt un peu bête et qu'il y aurait d'autres manières de recréer de la justice fiscale. Mais cette question de la justice fiscale est essentielle. Simplement, dans le son qu'on a passé là de Bruno Le Maire, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il explique, en gros, voilà, et c'est exactement toute la mécanique qu'a adoptée Emmanuel Macron depuis le début du grand débat. Si vous voulez qu'on baisse les impôts, il faut baisser aussi la dépense publique. Alors, première chose, encore faut-il savoir où est-ce qu'on baisse la dépense publique. Regardez par exemple le Ford à Blanquefort qui a touché des millions au titre du CICE. Bon, il me semble que s'il faut réviser la dépense publique, je pense que là, on doit pouvoir trouver deux, trois choses. Ensuite, sur la question fiscale, il y a eu ces derniers temps des ministres pour dire, écoutez, il faut tout remettre à plat les niches fiscales. Oui, mais là aussi, la question est complexe. Qu'appelle-t-on une niche fiscale ? C'est-à-dire que si la niche fiscale, ce sont en effet toutes les niches sur les constructions de logements neufs, tout cela, loi Pinel, etc., tout cela, en effet, mérite d'être exploré. De même, il y en a beaucoup qui font vivre actuellement les dom-tom, mais qu'il faudrait explorer aussi. En revanche, si vous comptez là-dedans les emplois à domicile, là, vous mettez en danger toute une part de l'économie. Donc tout cela n'est pas si simple, d'autant plus que, encore une fois, on évite de penser la question de la fiscalité des grandes entreprises et on part du principe que ceux qui sont les plus riches et qui peuvent partir, eux, on n'y touchera pas puisque justement ils peuvent menacer de partir.
Gilles ?
Est-ce qu'il est possible de réformer la fiscalité ? On vient d'avoir une des réformes les plus importantes il y a quelques semaines à peine avec l'introduction du prélèvement à la source. Bon, donc, il y a des réformes qui sont possibles. Ça a été plutôt une réforme consensuelle menée dans la durée.
Ça ne change pas le montant de l'impôt.
Pourquoi la question de l'impôt sur la fortune occupe-t-elle une telle place ? Pour les raisons symboliques qu'a évoquées Natacha, et parce qu'on est au croisement de la passion française pour la fiscalité et de la passion française pour l'égalité. La question, c'est est-ce que si l'on veut plus d'égalité, l'enjeu déterminant aujourd'hui, c'est la fiscalité ou est-ce que c'est autre chose ? Et je crois qu'on a tort de se concentrer exclusivement sur la question fiscale. La redistribution par l'impôt est plutôt forte dans notre pays, on peut toujours en souhaiter davantage. En revanche, ce qui ne va pas, là où les inégalités sont les plus fortes, c'est avant la redistribution par l'impôt, et c'est donc dans la répartition des revenus, notamment dans la formation des revenus dans l'entreprise. Là, il y a un grand sujet de débat qui est très absent des Gilets jaunes, très absent du grand débat et qui pourtant est le plus déterminant.
Natacha ?
Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Simplement, il n'empêche qu'il faut poser la question fiscale et la poser en prenant tout en compte. C'est-à-dire que, encore une fois, le point aveugle, c'est que nous avons renoncé à une part des ressources fiscales que nous pourrions avoir. Quand 60 à 80 milliards par an partent au titre de l'optimisation fiscale, il est vrai que derrière, il ne peut plus y avoir une fiscalité correctement pensée. Et c'est cela qui s'est exprimé dans la révolte des Gilets jaunes. C'est l'idée qu'on venait grappiller auprès de gens qui n'ont pas le choix en leur disant « on va vous faire payer la fin du monde parce que c'est de votre faute », alors que on exonère d'impôts sur des masses là qui sont bien plus importantes des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'ensemble d'un système qui permet ce dumping fiscal, d'où l'importance de ce dont nous parlions à l'instant, à savoir le rôle de l'Union européenne, à savoir l'existence de paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. À partir du moment où vous avez au Luxembourg ou aux Pays-Bas des pôles d'attraction, ou en Irlande, des pôles d'attraction qui permettent en effet cette perte de 60 à 80 milliards par an, vous ne pouvez plus mener une politique fiscale correcte.
Gilles, avant d'ouvrir le débat avec notre invité.
Oui, juste d'un mot. Là, on parle en fait des recettes qui ne sont pas là alors qu'elles pourraient l'être. Et c'est malgré tout, c'est à la fois un sujet sur lequel il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, Natacha a raison, et c'est un sujet sur lequel il faut quand même reconnaître que beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait au niveau international, dans la mesure où le secret bancaire n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 10 ans. Plus rien à voir. Et on a fait des progrès au niveau européen, y compris dans la période la plus récente, dans la mesure où, pour la première fois, l'Union européenne a fait une liste des paradis fiscaux qui est un peu plus robuste. On peut toujours souhaiter qu'elle le soit davantage, mais on progresse. Il reste la question des grandes entreprises, notamment les GAFA, qui réussissent à échapper à l'impôt. Et donc là, il y a un grand champ de combat à venir.
Natacha. Récemment, à Davos, on a vu un représentant d'une grande banque se gausser en disant « Mais enfin, connaissez-vous un seul pays au monde qui s'en soit sorti en taxant les plus riches à plus de 70% ?» Et un journaliste a levé la main et lui a répondu « Bah, les États-Unis, en fait. » Puisque les États-Unis, jusque dans les années 70, avaient un taux d'imposition marginal pour les plus hautes fortunes qui montait jusqu'à, si je ne me trompe, 80 ou 90%. Donc ça marche.
Absolument, ce qui pose la question dont on va débattre avec François Dubey, de ce qu'a été le cœur de l'évolution des inégalités sur les 10, 20, 30 dernières années, c'est-à-dire la concentration des richesses, non pas sur les 10% les plus riches, mais sur les 1% et parfois même sur les 0,1%. À la fois dans les revenus et dans les patrimoines.